Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'After Live, la musique, la Ligue des Champions. Deuxième soirée après le feu d'artifice footballistique d'hier au Parc des Princes. Place à Atlético de Madrid, Arsenal. La deuxième demi-finale aller de Ligue des Champions. Kevin Diaz est dans l'avant-match. Salut Kevin.
Salut à tous.
Manu Petit nous rejoindra pour le match, bien sûr. L'After dans la foulée jusqu'à minuit. Merci d'être avec nous, nombreux sur RMC en direct. Bon Kevin, à peine le temps de se remettre un peu des émotions folles d'hier soir. Ça va être difficile de prendre la claque qu'on a prise hier soir, hein,
ouais.
Avec ce PSG FC Bayern.
Non mais c'était franchement un match extraordinaire. Moi je l'ai dit dès hier, hein, c'est sûrement le meilleur match que j'ai vu depuis les 10-15 dernières années en termes de. Et moi je parle pas que des buts, du nombre de buts, du score.
Non, la qualité technique,
on en parlait là avec Jérôme après son émission. Quand je vois quand même deux telles équipes avec quand même des défenses qui sont pas les pires d'Europe, au contraire, qui sont parmi les meilleurs, avec 85% de passes réussies, au vu de l'intensité, au vu du pressing de chaque équipe. Bon, franchement, c'était un match, ça restait, comme je l'ai dit hier, un très très beau tableau de maître pour ce maintenant, ça n'est qu'un match aller, je l'entends.
Alors justement,
mais bon,
on va en parler dans l'avant-match. Bien sûr, cette question-là, selon vous, après le rapport de force d'hier, le PSG est-il en ballottage favorable avant la demi-retour mercredi prochain à Munich, à l'Allianz Arena, avec une information importante dont on parlera dans quelques minutes, le forfait officiel acté d'Achraf Hakimi. On n'est pas surpris. Déchirure musculaire, forfait pour les 2 à 3 prochaines semaines. On va voir à quel point ça peut modifier également ce rapport de force. Qui pour le remplacer? 32-16 ouverts, supporters parisiens, venez en parler, en débattre avec nous dans l'After Live avec Kevin Diaz. Atlético de Madrid ou Arsenal, ce soir pour prendre un avantage. Les deux coups après une première victoire dans leur histoire en Ligue des Champions. Au Metropolitano, notre drôle de dame espagnole, Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut Nico, salut Kevin, Edgar. Bienvenue au Metropolitano.
Merci d'être avec nous. Météo, ambiance, on attend quoi ce soir? Le feu, mobilisation générale?
Oui, alors je suis arrivé à peu près en même temps que le bus de l'Atlético. Il y avait des fumigènes de partout, des milliers et des milliers de supporters qui ont accompagné le bus sur l'avenue Luis Aragonés, nommé après le plus grand joueur de tous les temps de l'Atlético de Madrid. On attend une sacrée ambiance. Alors pour l'instant, il fait très très beau. Ça fait des jours qu'on nous annonce l'orage, l'averse, tout ce que vous voulez pendant le match. On verra si finalement ça tient.
On verra si ça tient. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, avant d'accueillir Julien Laurence d'ici une dizaine de minutes, pour parler des Gunners, hein, qui sont un peu sur une pente glissante en ce moment. La compo, les compos, Edgar, on commence par celle des Colchoneros.
Ouais, avec le retour de Jan Oblak dans les cages, la défense, Ruggeri à gauche, Llorente à droite et les deux centraux, Anko et Poubil au milieu de terrain, Coquet, et là c'est le choix fort de Diego Simeone qui a décidé de titulariser Johnny Cardoso, et puis les quatre attaquants, Ademola Lookman, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann et Julian Alvarez côté Atlético.
Et côté Arsenal, Edgar?
Côté Arsenal, David Raya dans les cages, la défense, Incapié, Gabriel, Saliba, Ben White, le milieu de terrain, Declan Rice, Martin Zubimendi et Martin Odegaard, le capitaine, et puis devant, Martinelli, Gyökeres, Madueke. Ça c'est pour le côté Arsenal, dirigé évidemment par Mikel Arteta, l'Espagnol.
Voilà pour la compo débris dans un instant, hein. La compo de Mikel Arteta, des Gunners, avec Julien Laurence. Commençons par l'Atlético de Madrid. Griezmann évidemment est là, mon cher Edgar, évidemment.
Oui.
Le bout de la piste, ce n'est pas loin. Sera-t-elle enfin étoilée, hein, lui qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions ni la Liga en 10 ans à Madrid. Une Ligue Europa, c'est déjà pas mal, mais pas suffisant, diront certains. Edgar, c'est une soirée très importante pour lui, qui ne sera plus là dans un mois, hein. Et l'autre légende, Coquet, tiens, on va l'écouter. L'homme d'un club, hein, l'homme qui a fait toute sa carrière à l'Atlético, tiens, on offrirait une à son ami, écoutez.
Je pense que si on peut se dire au revoir avec la Ligue des Champions, ce serait incroyable pour tout le monde. Et nous avons tous la même motivation. Au-delà de dire au revoir à Antoine, nous avons tous la motivation de gagner la Ligue des Champions. C'est le maximum que nous pouvons faire. Au-delà du fait que l'année prochaine, Antoine ne soit plus là, ou n'importe quel autre joueur, je pense qu'au final, c'est une équipe. Et nous jouons pour essayer de faire le maximum, et le maximum, c'est la Ligue des Champions.
C'est un enjeu pour les Colchoneros également, le cas individuel d'Antoine Griezmann, où ça dépasse tout ça.
Oui, alors c'est un enjeu. Je pense que ça leur donne un petit supplément d'âme, en tout cas pour les supporters. Quand on discute avec eux, ils nous disent tous, oui, gagner la Ligue des Champions, c'est évidemment le rêve absolu. Mais la gagner en plus de ça, avec Antoine Griezmann, ce serait le scénario le plus parfait possible. Ils en ont la chair de poule rien qu'à penser à ce scénario-là. Je pense que pour tous les joueurs, évidemment, c'est avant tout un objectif collectif, mais tout le monde a conscience qu'Antoine Griezmann est là, qu'Antoine Griezmann est l'une des plus grandes légendes du club, et que peut-être que quand il manquera un petit détail, un petit geste magique, ce sera lui qui viendra l'amener. Il va se rapprocher des 500 matchs avec l'Atlético, ça va être son 495e ce soir.
Il sera pas 500 quoi qu'il arrive.
Ouais, ça va être faut compter, ça va être limite, mais en tout cas la fin de son histoire peut être incroyable ou peut être quand même assez décevante, puisque en fait côté Atlético on s'est mis à rêver, on s'est mis à penser à cette Coupe du Roi, on s'est dit ça va être la première Coupe du Roi d'Antoine Griezmann, ratée avec cette défaite en finale face à la Real Sociedad au tir au but. Et puis là on se dit ça peut être enfin la première Ligue des Champions d'Antoine Griezmann après cette fameuse finale de 2016 où il avait raté un pénalty, au Real Madrid. On se dit que c'est le moment de se racheter, mais en tout cas d'effacer entièrement ce souvenir là mais évidemment c'est pas juste Griezmann qui va le faire, parce qu'il a quand même 35 ans et parce qu'aujourd'hui c'est plus lui le leader offensif de cette équipe, même s'il reste très très important.
On a envie tous un peu, Kevin, quand même.
Ouais.
Ce serait, on aimerait que le PSG le fasse aussi pour un back-to-back, mais l'immense consolation serait de voir Griezmann avec la coupe.
Oui, non, mais c'est clair. Enfin, pour moi, Antoine Griezmann, s'il pouvait gagner la Ligue des Champions, lui qui n'a pas gagné de titre espagnol, même s'il a déjà quand même gagné une Europa League, c'est quand même magnifique. Mais c'est vrai que ce serait un bel adieu. Maintenant, je pense quand même que ce soir, ça va être très très compliqué, et que même s'il se qualifie, je pense que ça va être très très compliqué, surtout en finale. Donc
c'est l'outsider des quatre, ça c'est sûr.
Oui, c'est sûr. Après, attention.
Donc ça, c'est un débat qu'on va mener.
Oui, c'est l'outsider pour moi.
Par rapport à Arsenal.
Déjà pour moi.
Malgré la forme d'Arsenal actuellement.
J'ai vu les deux matchs et de très très près entre le Barça et l'Atlético. Pour moi, le Barça, ils doivent tous les jours passer. S'il n'y a pas les cartons rouges, ils passent. Donc après, ça reste des faits de jeu, mais l'Atlético, on le voit en championnat, est quand même bien en dessous du Barça footballistiquement. Je suis désolé de le dire. On est dans un sport où ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais pour moi, sur la ligne de départ des demi-finales, l'Atlético est même bien en dessous des trois autres.
Mais j'ai envie de vous dire, messieurs, ça les arrange parce que c'est le scénario qui leur plaît le plus, être l'outsider, être l'équipe qui va aller chasser les géants, parce que n'oublions pas que dans l'imaginaire collectif des supporters de l'Atlético, ça reste, malgré son budget immense, un club populaire au niveau des supporters, qui a passé toute sa vie à combattre le Real Madrid et le FC Barcelone, et en Europe à combattre les grands. Et donc eux, ils préfèrent être dans cette situation-là, de se dire ok, on est outsider, parce que généralement quand ils sont favoris ça va pas toujours dans leur sens, et on l'a encore vu face à la Real Sociedad où ils étaient favoris et finalement ils ont pas réussi à maîtriser le match comme ils l'auraient voulu.
Après attention, je dis pas non plus que c'est Bodo Glimt, l'Atlético Madrid, ils ont quand même énormément de qualité individuelle. Je sais pas quel est leur budget, mais ils ont un énorme budget, ils ont l'entraîneur le mieux payé du monde, ils ont quand même de l'oseille,
ils ont un stade dépensier sur les dernières années,
ils ont un stade extraordinaire, ça reste quand même une grosse écurie, mais je pense que footballistiquement, et on le voit en championnat, c'est en dessous des restes.
C'est limite une anormalité qu'il n'y ait pas plus de finale ou même de Liga à l'Atlético, même si ils sont loin derrière les budgets du Real et du Barça.
Ils sont devant deux monstres.
On peut aussi le voir dans le sens où Diego Simeone est arrivé en 2011. Avant 2011, l'Atlético avait joué 8 Ligues des Champions dans son histoire et il en a joué 13 avec Simeone. Donc largement plus de Ligue des Champions avec Simeone que sans Simeone, alors que évidemment l'histoire sans Simeone est beaucoup plus longue. Donc on peut le voir dans les deux sens. Il a amené une régularité, il a amené quelque chose d'incroyable qui fait qu'aujourd'hui on se dit que l'Atlético peut rivaliser avec les grands, mais c'est vrai qu'on attend encore ce pas supplémentaire, et c'est peut-être le nouvel investisseur, le nouveau propriétaire Apollo qui va apporter ça aussi dans les prochaines années.
Benjamin est avec nous, supporter des Gunners au 32-16. Salut Benjamin.
Salut, bonsoir à tous, bonsoir.
Bienvenue dans l'Afterlife avec Kevin Diaz, Edgar Grollo au stade à Madrid, le Metropolitano. Bon, comment t'imagines ce rapport de force et ce soir, même une question sur le spectacle attendu.
Moi, je m'attends à un match terrible, franchement terrible. Arsenal, depuis le début de saison, c'est ça joue à la baballe, mais c'est pas un jeu qui est tourné vers l'avant. Donc, je m'attends à un match très fermé. Je pense que le réveil va être un peu difficile après le match qu'on a vécu hier soir, passer à deux équipes qui vont tout faire, je pense, pour ne pas prendre de but. Arsenal, attention, ça ne prend pas beaucoup de buts et c'est très efficace devant. Donc il se procure pas tant d'occasions que ça, mais il marque quand même souvent. Donc moi je m'attends vraiment à un match, voilà, 1-0, un partout, pour que les deux équipes soient encore en vie pour le match la semaine prochaine, quoi.
Alors c'est intéressant ce que tu dis, hein. Arsenal est devenu une sorte d'Atlético de Madrid d'il y a quelques années, Edgar. En revanche, il faut peut-être commencer à défoncer le cliché du cholismo.
Oui.
Il y a qui est l'équipe la plus efficace en Ligue des Champions devant le but après le PSG et le Bayern?
Celle qui a mis le plus de buts, oui. C'est l'Atlético. 34 buts en 14 matchs. Alors oui, ils ont joué plus de matchs que beaucoup d'autres équipes, mais ça fait quand même 2,4 buts par match en moyenne. Si avec 2,4 buts en moyenne par match, tu dis que c'est une équipe qui fait juste garer le bus et qui fait rien d'autre, non, c'est pas possible. Faut arrêter avec ce cliché-là. Alors évidemment, la base du jeu Diego Simeone et surtout de la réflexion de Diego Simeone, c'est-à-dire mettre l'intensité, avoir de la Grinta, avoir une équipe entière avec 11 joueurs qui défendent quand ils n'ont pas le ballon, ça reste une réalité. Et on l'a vu face au Barça, c'est une équipe qui, dans certains scénarios, reste une équipe défensive. Mais de manière générale, c'est une équipe qui, de plus en plus, par rapport à il y a 5-10 ans, est une équipe portée vers l'avant. Et les stats le disent, les stats défensives aussi, puisque finalement, c'est pas la défense la plus imperméable d'Europe. Loin de là, 1,8 buts pris par match en moyenne cette saison en Ligue des Champions. Si tu prends toutes les équipes qui étaient qualifié au moins pour les quarts de finale, c'est tout simplement le pire ratio parmi toutes ces équipes-là, parmi toutes les meilleures équipes d'Europe. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup et qui prend beaucoup de buts.
Bon, c'est étonnant, hein, quand on dit ça aujourd'hui. Hein. Terminer l'époque des combats agressifs, intenses des Colchoneros pour gagner 1-0 à la fin, quoi.
Ou arracher un match nul. Je suis désolé, je reviens sur le quart de finale face au Barça. Ils ont quand même beaucoup défendu.
Oui, bien sûr. Ouais, est-ce que c'est le Barça aussi?
Voilà. Ouais, d'accord. Ce soir, ce sera Arsenal et je pense qu'ils vont beaucoup défendre aussi.
L'équipe en face, c'est pas le même style de jeu, Kevin. Donc c'est aussi une adaptation par rapport à l'adversaire. Et je pense aussi que je suis d'accord avec toi. Tu peux refaire la double confrontation 10 fois. Je pense qu'il y a plus de fois où le Barça serait passé que l'Atlético. Et je pense que l'Atlético, sur certains moments et particulièrement sur le match aller, a été tout simplement dépassé techniquement, tactiquement par le Barça. Et c'est pour ça que Diego Simeone, lui, pour le coup, il est pragmatique. Il a pas de honte. Et contrairement à d'autres entraîneurs, s'il sent que son équipe va pas pouvoir faire le jeu, va pas pouvoir se développer offensivement comme ils peuvent, il met tout le monde derrière. Ça reste une réalité.
Non mais ça je suis d'accord, mais après attention, je veux bien qu'Arsenal ce soit pas le Barça, mais Arsenal c'est pas l'Atlético non plus, hein. Ça reste une équipe qui est capable de jouer, qui est capable de se procurer des occasions. Là ils sont un peu moins en confiance en championnat, mais ils sont quand même premiers en première ligue. Ils ont fini je crois que c'était premier ou deuxième de la phase de groupe de Ligue
premier,
des Champions.
Premier
de la phase de groupe de Ligue des Champions. Ouais. Attention, c'est pas un bloc bas qui attend et qui fait que des touches, hein. C'est pas Stock City, hein, l'histoire. Donc c'est quand même une équipe qui a énormément de qualités individuelles, qui va retrouver un Odegaard, qui va jouer avec un Zubimendi, avec un Martinelli, avec un Madueke. Il y a quand même des joueurs de foot dans cette équipe.
Hein. Il y a toujours Sam Bukayo Saka, Benjamin. Certains imaginaient qu'il débuterait ce soir. Il a joué 10 minutes ce week-end. Pas épargné par les blessures cette saison. À quel point il manque, à quel point il peut manquer ce soir? Est-ce que tu es surpris? Et est-ce que tu aurais aimé le voir ce soir titulaire, toi?
Surpris qu'il soit pas là, pas du tout, parce qu'en fait, il n'a aucun rythme. Il n'était pas là depuis plusieurs semaines et il est revenu à peine contre Newcastle. Il a joué que quelques minutes. Donc non, il vaut mieux avoir un joueur qui a du rythme. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un Saka hors de forme qu'un Madueke au top de sa forme? Ça, je sais pas trop. Parce que Madueke est vraiment pas un joueur talentueux, en tout cas depuis qu'il est arrivé à Arsenal. Donc oui.
Si tu me permets, c'est un joueur talentueux qui n'est pas régulier.
Oui, c'est plutôt ça. Ouais. C'est plutôt ça. Mais c'est compliqué de se passer de Saka dans la mesure où c'est le meilleur joueur de l'effectif, c'est le joueur le mieux payé. C'est vraiment la star de l'équipe qui cette saison quand même est sur des stats qui sont pas folles. Donc difficile d'imaginer la Ligue des Champions, enfin une victoire en Ligue des Champions sans un Saka qui revient en forme.
Tiens, justement, on va accueillir Julien Laurence qui nous écoute depuis quelques secondes. Salut Jules.
Salut Nico, salut à tous.
Merci d'être avec nous, Julien, dans les dames anglaises. Tiens, on parlait de Bukayo Saka, je le cueille comme ça directement sur le cas de l'international anglais. Certains imaginaient qu'il débuterait ce soir. Finalement, c'est Madueke. Est-ce que toi, t'es surpris? Est-ce que tu comprends ce choix? Je rappelle qu'il a plus débuté un match depuis le 22 mars dernier, notamment. C'est en finale de la League Cup, Julien.
Ouais, non, je pense qu'il aurait pu débuter ce soir. Le problème, si ça avait été le match retour, par exemple, et qu'il n'y avait plus rien à jouer en championnat, exactement. Là, tu peux pas prendre le risque. Même dans un match aussi important que celui de ce soir, il y a Fulham samedi en championnat dans cette course au titre acharnée avec City. C'est très compliqué. Si tu venais à perdre Saka, l'idéal c'est qu'il joue un petit peu encore ce soir et je pense qu'il va jouer. On le verra sûrement une demi-heure, peu importe le score au moment où il entre en jeu finalement. qu'après il soit titulaire contre Fulham, il soit titulaire lors du match retour le mardi prochain à l'Emirates, et qu'après il puisse jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est ça l'idée. Alors que là, je pense vraiment qu'il aurait pu débuter dans d'autres circonstances et un autre contexte. Mais là, tu prends pas de risque. Pareil avec Eze. Je pense qu'Eze aussi aurait pu être titulaire ce soir. Ils ont choisi de pas prendre de risque pour les mêmes raisons que pour Bukayo Saka. Alors, c'est un petit peu différent pour Eze, même si lui aussi revient un petit peu de blessure. Mais il a sûrement plus de rythme sur les 5 dernières semaines que Saka. Mais c'est un petit peu la même logique, quoi.
Julien, on se souvient bien sûr, parce que c'est frais, hein, cette double confrontation contre le Sporting Portugal, la frilosité, l'extrême prudence de l'équipe de Mikel Arteta. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même approche ce soir face à une équipe encore à un niveau supérieur qui met encore une intensité plus importante, l'Atlético de Madrid? Qu'est-ce que t'en penses toi ce soir, Julien?
Moi, je pense que Arsenal, comme on l'a vu par exemple contre l'Atlético déjà lors de la phase de Ligue, est capable aussi de marquer 4 buts à une équipe pareille. Après, cette histoire de contraste entre la demi d'hier et la demi de ce soir,
c'est pas la bonne comparaison possible.
Je sais pas si Edgar en a parlé encore, mais l'Atlético, ils viennent de marquer 50 buts sur les 10 derniers matchs ou un truc comme ça, c'est ridicule. Donc eux aussi, ils sont capables d'attaquer et de marquer des buts. On aura peut-être pas le spectacle qu'on a eu hier, mais on pourra aussi avoir un match.
C'est ce qu'on disait, exactement.
Tout à fait. Donc avec des équipes, mais c'est, si tu me demandes si Arteta aime le contrôle, bien sûr qu'il aime le contrôle, ça c'est sûr. S'il préfère avoir le contrôle plutôt que de prendre des risques pas mérités entre guillemets, oui, il va choisir le contrôle. Il va choisir par exemple de repartir même sur une option d'aller en contre par exemple ou en transition rapide. Il va peut-être préférer qu'on mette le pied sur le ballon, qu'on recommence, qu'on reparte de derrière, qu'on reconstruise, qu'on s'installe dans la moitié adverse, qu'on fasse ce qu'ils font habituellement. Ça c'est sûr. Après, ça l'empêche pas de marquer 2, 3, 4 buts s'ils peuvent dans une rencontre. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Ça c'est sûr. Mais ils en sont capables aussi. Après, le jeu et la rencontre, la physionomie de la rencontre dictera aussi ce que lui fera, notamment dans ses remplacements et tout ça. Mais oui, s'il aime le contrôle, il y a aucun doute là-dessus. S'il a construit une équipe qui est avant tout la meilleure sans ballon, ça c'est sûr aussi, c'est l'équipe qui est la plus forte défensivement, avec ballon, sans ballon. Ils ont cette capacité notamment à la perte du ballon, à très rapidement se replacer derrière le ballon. Ça c'est sûr, il en a fait une machine défensive à ce niveau-là, il y a aucun doute là-dessus. Mais c'est aussi une équipe qui peut être forte offensivement avec le ballon.
Exactement. Kevin, vas-y.
Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je pense quand même que cette équipe d'Arsenal, elle a énormément de qualité et qu'elle peut, malgré qu'elle soit bien sûr en stress avec ce qui leur arrive en championnat, elle n'est pas complètement libérée. Mais c'est une équipe, quand tu regardes, de toute façon, c'est toujours pareil. Moi, je discutais avec un président cette semaine qui me disait, moi, quand je regarde les adversaires, j'aime bien regarder le banc de touche. Mais tu rends compte le banc de touche qu'ils ont, Arsenal.
Bien sûr.
C'est extraordinaire ce qu'ils peuvent faire rentrer avec les 5 changements. T'as du Bukayo Saka, t'as du Lewis Kelly, t'as du Gabriel Jesus, t'as du Eze qui a la furie en défense. Enfin bref, même le gardien, c'est fort. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui peut clairement faire très très mal si elle est menée. Et tu sais, moi je pense qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions, Arsenal. Hein. Ils peuvent le faire. Je sais pas s'ils vont le faire. Ils sont peut-être pas favoris numéro 1, mais pour moi, j'oublie
pas.
Tu
veux dire, dans leur approche, dans leur style, peut-être pour
tout
la seule équipe qui peut contrecarrer le Bayern ou le PSG dans une éventuelle finale.
Non, bah, l'Atlético, ils les contrarieront dans un autre domaine. Ils peuvent aussi le faire. Ils l'ont fait contre le Barça. Mais Arsenal, c'est très fort individuellement. Attention.
Bon, c'est bien. Hein. C'est un discours qui tranche avec la tonalité de certains supporters d'Arsenal, notamment sur les réseaux là, sur Direct Studio notamment, qui sont un peu inquiets. Pente glissante, dit-on, de plus en plus à Arsenal. Mon cher Julien, est-ce que c'est perceptible encore aujourd'hui? Là, ils ont repris la tête avec un match en plus que City n'a pas joué, notamment 3 points d'avance. Est-ce que toi, tu sens que Arteta a une approche des matchs un peu différente, un peu plus frileuse? Tu parles de contrôle, toi, mais est-ce qu'il n'y a pas une prudence liée peut-être à une confiance qui s'est un peu érodée ces dernières semaines?
Si, je pense qu'il y a sûrement un petit peu de ça, oui. C'est vrai que si tu compares par exemple au football produit, encore une fois, dans la phase de Ligue, qu'ils avaient remporté et assez haut la main finalement, en étant invaincu même, oui, c'est sûr qu'il y a... Il y a des joueurs individuellement qui sont plus au même niveau, des joueurs qui sont plus là du tout, comme l'absence de Saka par exemple, ou celle de Timber qui fait très très mal, celle de Timber, peut-être même plus que celle de Bukayo Saka dans un sens.
Odegaard qui n'a pas retrouvé non plus sa forme évidemment.
Ouais, par exemple, c'est des joueurs qui ont joué beaucoup. Alors les Anglais ont fait beaucoup sur le match d'hier, mais ça c'est normal un peu. Hein. Ils essaient de se protéger, de défendre leur première ligue, etc., etc. Mais beaucoup des journalistes anglais de foot depuis hier soir par exemple rappellent à tout le monde qui veut l'entendre en tout cas que si tu regardes les des joueurs du PSG ou du Bayern et les minutes jouées en championnat par exemple par rapport à celles d'Arsenal ou de City, d'Arsenal surtout, c'est le jour et la nuit. Mais c'est vrai que Luis Enrique peut plus faire des changements,
ouais, c'est ça, ouais.
En championnat, quand ils jouent Lorient, Angers, Nantes, tout ça, que Arsenal, surtout dans la course au titre actuelle, alors même si le PSG a eu une course au titre, a une course au titre avec Lens. Et le Bayern, c'est la même chose aussi. Donc oui, ils peuvent faire plus tourner qu'Arteta ou que Guardiola, ou même que Slot. Oui, 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 c'est sûr.
L'Atlético qui fait jouer des gamins en championnat depuis un mois et demi.
Exactement. Donc je pense qu'à un moment, ce soir, peut-être pas ce soir physiquement, mais ou en tout cas dans la dernière demi-heure peut-être, mais la semaine prochaine, c'est sûr que Simeone, là, ce week-end, avec l'Atlético, je crois, à Valence, Edgar, il va faire jouer l'équipe B, tous les jeunes qu'on voit... Depuis un mois, alors que Arsenal, ce sera la même équipe quasiment, avec Eze Saka à la place de Martinelli et peut-être de, je sais pas moi, d'un Ras ou d'un Zubimendi pour les faire se reposer un petit peu. Mais ce sera ça, parce que Fulham, tu dois absolument gagner. Fulham, c'est pas un match que tu peux ne pas gagner parce que c'est ta course au titre. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que Zubimendi, par rapport au mois de novembre, d'octobre, novembre, décembre, Zubimendi, il m'a l'air cramé, le pauvre, à partir de l'heure de jeu, il commence déjà à tirer la langue. Rice, c'est un petit peu pareil. Odegaard, on l'a dit, il cherche son meilleur niveau. Saka est pas là. Madueke, c'est un bon joueur, Madueke. C'est un joueur qui va percuter beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là. Il est pas là pour marquer des buts et faire des passes. Il est là pour désorienter une défense. Martinelli, il cherche sa meilleure forme aussi. Gyökeres, ça peut être un jour pas mal, un jour moins bon, parce que c'est ce genre de numéro 9 là aussi.
L'absence de Merino aussi, hein, qui est préjudiciable.
Donc et plus Timber. Pour moi, Timber, c'est vraiment celui qui leur a manqué le plus. Donc oui, c'est sûr que c'était pas au niveau que tu avais en novembre, mais tu gagnes pas un championnat ou une Ligue des Champions en novembre non plus. Donc voilà, à eux maintenant d'essayer de retrouver, de se rapprocher le plus près de ce niveau-là qu'ils ont pu montrer.
Après Julien, comme l'a dit Kevin, t'as un groupe élargi, une profondeur de banc dingue que n'a pas le PSG, parce qu'il a voulu peut-être, que n'a pas l'Atlético de Madrid aussi. T'es armé pour jouer le titre sur les deux tableaux. Ouais. C'est ça l'arrêté. J'ai pas non plus envie de pleurer, si tu veux.
J'ai pas envie de pleurer sur les
circonstances, blessures de la saison ou le turnover moins facile à mettre en place pour Arteta. T'es équipé.
Ouais, sauf que Madueke, c'est un bon remplaçant pour Saka, mais c'est pas à classe mondiale comme Saka. Oui, White, c'est peut-être un bon remplacement comme pour Timber, mais Timber, pour moi, au poste d'arrière droit, c'est classe mondiale. Donc après, oui, tu peux me dire, c'est un bon effectif, bien sûr, c'est un effectif qui doit te permettre de battre Fulham, par exemple, avec ton équipe A' ou voire B, une équipe mélangée, c'est sûr, mais t'as des postes où les joueurs que tu as titulaires à leur meilleur niveau, mais de toute façon, c'est la même chose pour le PSG. Hein. Si à un moment, si t'as pas Eze et Saka pour Arsenal, et que t'as pas que Kvaratskhelia est doué pour le PSG, tu trouverais Barcola, oui, c'est bien, mais après à droite, c'est Lee, c'est Mayulu, c'est ça. Donc c'est pareil pour tout le monde.
Je suis d'accord avec toi. Tu sais, souvent, je dis que le grand Barça de Guardiola, s'il lui manquait Xavi et Iniesta au milieu, je pense que ça aurait été une toute autre équipe pendant 3 mois ou pendant 2 mois ou même pendant 2 matchs. Donc je veux dire, il y a un moment, bien sûr que, et on en parlait avec Daniel hier, bien sûr que les individualités sont importantes dans un collectif. Maintenant, ce qui est mis en place par Arteta depuis plusieurs années, c'est quand même énorme, et pour moi, même s'ils n'étaient pas champions, et bah, ils vont finir par l'être, hein. C'est ce que je dis, il y a un moment ça va tourner, c'est obligé, c'est comme ça dans le foot.
Oui, je suis sûr. Mais après, c'est vrai que la pression, je pense, et cette anxiété que eux ont, les joueurs, parce qu'ils veulent absolument gagner, que les supporters ont, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus gagné, que le club a, Arteta, les gens au-dessus de lui, bah, parce qu'avec tous les investissements que tu as fait, tu veux gagner forcément, et parce que tu viens de finir 3 fois deuxième en championnat, ça ferait une 4e saison de suite où tu finirais deuxième. Tu serais le poulie d'or de la première ligue anglaise. Donc à un moment, oui, c'est sûr que je pense que cette tension, elle est vraiment présente, et ça te gêne sûrement un petit peu par moment sur le terrain. Par exemple, samedi dernier contre Newcastle, tu ouvres le score tôt. Et après, tu sais pas vraiment quoi faire. Tu sais pas si tu dois aller attaquer pour marquer un deuxième, un troisième, au risque de t'exposer un peu défensivement, ou tu reviens un petit peu dans ce que tu sais faire, c'est-à-dire gérer ces matchs-là et gagner 1-0 parce que, bah, défensivement, on l'a dit, t'es très fort. Et je pense que ça part de là à la base. Mais oui, il reste potentiellement 3 matchs de Ligue des Champions et 4 matchs de championnat pour essayer de gagner les deux ou l'un ou l'autre. Mais ça peut aussi se faire finir avec rien du tout, effectivement.
Les gars, quel souvenir il en reste de cette confrontation en phase de Ligue? La victoire 4-0 d'Arsenal face à l'Atlético de Madrid. Ça remonte, hein, c'était au mois d'octobre dernier, hein, c'était en quasiment tout début de saison. Edgar, est-ce que c'est un sujet où on se dit, un peu comme à l'instar du PSG Bayern d'hier soir et la défaite du PSG au Parc il y a 6 mois face au Bayern, que le contexte est tellement différent, que les dynamiques sont plus les mêmes, que les effectifs ont évolué également?
Oui, évidemment, ça a beaucoup changé depuis, surtout côté Atlético, des joueurs qui n'étaient pas là. Je pense évidemment à Ademola Lookman. Je pense aussi que cette équipe de l'Atlético là a beaucoup changé, beaucoup évolué. Elle a compris certaines de ses forces, certaines de ses faiblesses aussi. Et à ce moment-là, elle joue aussi à fond le championnat. Donc c'était forcément une dynamique très différente. Alors en Espagne, on n'est pas revenu plus que ça sur ce match de phase de ligue. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est qu'Arsenal a mis un 4-0 à cette équipe, donc forcément un moment pendant le match ça peut rentrer dans les têtes de l'Atlético. Et l'autre réalité, c'est qu'Arsenal est en grande réussite face au club espagnol. C'est la première équipe de l'histoire à remporter 7 matchs consécutifs face à des clubs espagnols en Ligue des Champions, donc c'est pas rien. Alors oui, est-ce que c'était dans des finales de Ligue des Champions? Pas forcément. Est-ce que c'était que contre des très très grandes équipes? Pas forcément, mais c'est pas rien. On se souvient qu'Arsenal, c'est une équipe qui a aussi éliminé le Real Madrid de l'année dernière en quart de finale. Donc c'est une équipe qui est très respectée en Espagne, et ça peut peser dans les moments importants des matchs où tu te dis qu'il n'y a pas n'importe qui en face non plus.
Bon, voilà, le décor est planté. Merci Edgar, on te retrouve tout à l'heure à 20h45. Salut Edgar. Dans l'avant-match. Merci Julien.
À tout de suite.